Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc le président directeur général du groupe Aéroports de Paris, Augustin de Romanet.
Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin. Bonjour Augustin de Romanet.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes un patron assez discret. Or, nous sommes dans une période importante pour l'entreprise que vous présidez. Nous sommes exactement à une semaine du vote d'une loi qui peut être historique pour votre entreprise. La loi qui ouvre la voie à une privatisation, ce sera ce vote définitif. Le 11 avril. Le soir, vous boirez le champagne ?
Écoutez, le soir, je continuerai ce que nous faisons depuis 7 ans, c'est-à-dire à réfléchir à ce que tous nos clients trouvent leur compte. Ce qu'il faut, c'est que si cette privatisation survient, il faut que les clients trouvent la qualité de service donc en amélioration continue. Il faut que les contribuables aient la certitude que l'État en tirera un prix de vente correct et fair play, afin que l'État puisse financer les innovations de rupture dont il a le projet. Il faut que dans les territoires, on sache que les nouveaux actionnaires continueront à être attentifs à créer des emplois, que ce soit dans nos plateformes parisiennes ou à l'étranger. Donc, nous continuerons à être enthousiastes pour développer ce métier.
Clients, contribuables, collectivités, on va en reparler, mais Augustin de Romanet, cette loi, elle ouvre la voie à une privatisation. Ça n'est pas la privatisation elle-même. Après, c'est le gouvernement qui l'enclenche. Ou pas, est-ce que vous demandez à Bruno Le Maire d'aller vite après le vote ? Quel délai serait idéal ?
Alors, je n'ai rien à demander, entre guillemets, à mon actionnaire. Ce que je peux simplement faire observer, c'est que nous avons entendu parler de ce projet de privatisation dans des termes assez précis, il y a 24 mois. Et toute l'entreprise a été mobilisée pour continuer à exercer au quotidien son métier, tout en essayant de se mettre en situation de permettre à notre actionnaire principal de prendre les décisions qu'il souhaite. Donc, à partir du moment où la loi est votée, pourquoi pas aller vite ?
Oui, maintenant, ça fait 24 mois, ça fait 2 ans, vous dites, il faut passer à l'acte. Il faudrait que ça vienne, la transition ne devrait pas trop durer. C'est vrai que le contexte n'est plus tout à fait le même qu'au premier moment où il en a été question, le contexte politique, on va en parler, l'opposition est très hostile, les contribuables sont chatouilleux, on l'a vu avec les gilets jaunes sur l'utilisation de l'argent et des biens publics. Ça peut jouer dans la décision du gouvernement, vous pensez ?
Oui. Il est absolument acquis que le gouvernement examine le contexte lorsqu'il prend une décision. Ce que je peux faire observer en tant qu'acteur de la gestion des plateformes parisiennes, c'est que la loi Pacte, telle qu'elle va être votée, donne aux contribuables et aux usagers la garantie que toutes les missions de sécurité, toutes les missions de sûreté, la présence de l'État dans nos aéroports sera intégralement maintenue, voire un petit peu renforcée. Qu'il s'agisse de la police aux frontières, de la douane, de la gendarmerie des transports aériens, de la Direction générale de l'aviation civile, tous les services de l'État seront présents et les droits que l'État va garder sur les plateformes parisiennes sont un tout petit peu accrus par rapport à aujourd'hui et j'ajoute que dans 70 ans, il récupérera le bien.
Oui, dans 70 ans. On rappelle que l'État aujourd'hui quand même possède 50,6%. Ça vaut combien d'EP ce matin là ?
Ça vaut environ 18 milliards d'euros à la bourse.
D'accord. Ça rapporterait la moitié de ça si l'État vendait toutes ses parts. Est-ce qu'il doit tout vendre, selon vous ?
Écoutez, c'est un choix qui lui revient.
Préconisation à vous ?
Alors, je serais très embarrassé de faire une préconisation parce que ça pourrait vouloir dire que j'ai une préférence personnelle. La seule chose que je puisse dire, c'est que nous sommes préparés, parce que nous avons des équipes formidables, à ce que si l'État devait décider de céder le contrôle, nous continuions à développer cette stratégie de qualité de service. Il demeure que un aéroport ne peut pas se développer sans un lien fort avec ses territoires. Et vous le savez, à Heathrow, la troisième piste a été difficile à construire parce que les territoires étaient un petit peu réticents à laisser l'aéroport se développer, qui était possédé à 100% par le privé.
C'est un message aux collectivités locales ? C'est un message à l'État pour qu'il...
Non, c'est une réponse à votre question, madame.
Oui, et la réponse à la question, c'est que ce serait peut-être logique de tout vendre, parce que l'État, quand il a des parts minoritaires dans les entreprises, il peut parfois ne pas faire grand-chose, c'est pas un vecteur d'influence considérable, en fait, à l'épreuve, mais que ce serait pas mal qu'il en garde un peu.
Écoutez, en tout état de cause, la gouvernance d'ADP est établie avec des membres du conseil d'administration et des censeurs. Nous allons proposer à l'Assemblée Générale de fin mai d'avoir 4 censeurs qui sont le maire de Paris, la présidente de la région Île-de-France, le président du Grand Roissy et la maire d'Orly. Donc, quoi qu'il arrive, même si l'État...
Au conseil d'administration ?
Comme membre observateur du conseil d'administration, sans droit de vote, mais participant aux réunions.
Il y a un contre-exemple absolu et François Langlais en parlait hier matin dans sa chronique, c'est Toulouse-Blagnac. Il expliquait, François, que les propriétaires, une entreprise chinoise, pompaient méticuleusement tous les bénéfices, donc n'investissez pas, pour les reverser aux actionnaires. Et par ailleurs, ils n'avaient pas, depuis qu'ils ont racheté, fait énormément d'investissements pour améliorer cet aéroport. Emmanuel Macron était ministre de l'économie quand ça a été vendu aux Chinois. Peut-il, en tant que président, vous mettre à l'abri d'un tel ratage ?
Alors écoutez, j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour François Langlais, mais je ne suis pas d'accord avec lui. D'une part, tous les acquéreurs potentiels de l'aéroport de Toulouse, y compris ADP...
Vous êtes candidat ?
Non, dans la fois dernière, nous étions candidats. Et tous les acquéreurs avaient pour projet, compte tenu du prix qui a été payé à l'État, de récupérer une trésorerie excédentaire et de se le verser en dividendes. Donc je ne pense pas que sur ce point-là, on puisse accuser les Chinois. D'autre part, le travail qui a été fait est de bonne qualité. Chacun reconnaît que l'aéroport de Toulouse a été amélioré. Et donc, même s'ils sont Chinois, ce n'est pas une raison pour les accabler de tous les maux.
Et le principe de verser tous les bénéfices aux actionnaires, ça vous semble être une bonne gestion ?
Ce qui est très important, c'est que l'actionnaire laisse dans l'entreprise les moyens d'améliorer tout ce qui est utile au client. Il se trouve que lorsque l'État a cédé Toulouse, il y avait une trésorerie très excédentaire dans l'aéroport. Pardon d'être aussi technique, mais ce que je veux juste dire, c'est que de temps en temps, il faut accepter la complexité pour ne pas porter de jugement trop hâtif.
Est-ce que c'est de la complexité ou pas ? Quand 250 élus socialistes, par exemple, encore récemment, ou même Laurent Wauquiez de l'autre côté du spectre, disent « il ne faut pas privatiser l'aéroport de Paris ». Alors, ils ont un argument commun, c'est de dire qu'aux États-Unis, les aéroports ne sont pas privatisés. Même les États-Unis se sont toujours refusés à franchir le cap, disent-ils, les uns et les autres.
C'est
autrement
pas
dit,
tout à fait exact. Regardez Joe Biden, qui expliquait que l'aéroport de LaGuardia était digne d'un aéroport du tiers-monde, eh bien, la porte autorité de New York n'avait pas les moyens financiers de rénover l'aéroport de LaGuardia. Ils l'ont confié à des privés. Et d'ailleurs, nous étions candidats pour rénover l'aéroport de LaGuardia. Donc, je pense que l'état des aéroports américains qui est mauvais, et qui, vous le savez, que ce soit les autoroutes, les ponts ou les aéroports, ils souffrent d'un sous-investissement chronique avec des problèmes d'entretien et de qualité des équipements. Donc, il ne fait pas de doute que les États-Unis vont privatiser leurs aéroports progressivement.
Ils vont y venir.
Absolument.
Ils vont y venir compte tenu de l'État et de leur incapacité à les entretenir correctement. C'est ce que vous nous dites et il y a beaucoup de fantasmes. Augustin de Romanet, qui peut s'offrir ce joyau français ?
Alors, des investisseurs de long terme qui savent que un aéroport est là pour une longue durée, qui connaissent le taux de croissance du transport aérien dans le monde, qui sera encore durablement élevé pendant quelques dizaines d'années, même si je ne pense pas que les armes montent jusqu'au ciel. On est obligé de constater aujourd'hui que le rythme de croissance du transport aérien est le double du PIB. Lorsque le PIB croît de 2, le transport aérien croît de 4. Pourquoi ? Parce que dès que vous accédez au statut de classe moyenne, vous avez envie de voyager. C'est l'un des besoins élémentaires après celui de se loger, de se vêtir et de se nourrir. Donc, lorsqu'aujourd'hui, vous savez qu'un Indien moyen voyage 28 fois moins qu'un Américain, dès lors que les classes moyennes de ces pays, l'Inde, la Chine, les pays émergents d'Asie, vont arriver dans ce statut, ils vont se mettre à voyager. Donc, les investisseurs savent que le métier de l'aéroport nécessite beaucoup d'investissements, mais qu'on peut se fonder sur une croissance suffisamment régulière pour espérer, sur le long terme, avoir des rendements qui permettent souvent de payer les pensions des fonds que l'on a en gestion. Donc, beaucoup de fonds de pension sont candidats pour la gestion.
Vous envoyez d'ailleurs aujourd'hui, je crois, près de 200. Vous allez leur donner vos arguments. Mais enfin, si c'est si intéressant, compte tenu des perspectives de croissance, que l'État garde ce bijou de famille.
Alors, il se trouve que...
Vous versez combien aujourd'hui à l'État comme dividende ?
Comme dividende, nous versons 60% du résultat net.
C'est-à-dire ?
Donc, le résultat net de cette année était de 610 millions d'euros, le dividende de 305, et l'État en a la moitié. Le dividende de 370 et l'État à la moitié de 370,
oui, donc c'est-à-dire... à peu près 170,
175.
175 millions, c'est pas mal de recevoir ça tous les ans quand on est un État déficitaire. La question, vous savez, les Français n'ont pas digéré la privatisation des autoroutes. Vous avez déjà évoqué certaines garanties en termes de sécurité. Choisir le bon client, ça va être fondamental. Oui. L'État peut choisir ou il va être obligé de vendre au plus offrant ?
Je n'ai aucun doute quant au fait que l'État choisira un processus qui permettra que le plus offrant soit un acteur dont il atteste de la responsabilité. Donc je n'ai pas de doute quant au fait que si l'État a décidé de vendre, encore une fois, moi je ne suis pas ici, Madame Martichoux, pour vous dire qu'il faut que l'État vende. Depuis 7 ans, nous gérons cette entreprise
vous
avec
étiez,
l'État
vous
comme
étiez,
actionnaire.
Vous êtes un converti d'ailleurs de la privatisation. Vous avez toujours été.
Je ne suis ni converti, ni athée, ni agnostique. J'ai décidé de laisser mon actionnaire prendre ses décisions. Mon métier à moi, c'est de satisfaire les clients et pas de gérer le capital de l'entreprise.
Par parenthèse, vous avez été reconduit, vous avez des résultats financiers qui sont bons, l'État a décidé donc de proroger votre mandat, vous êtes à la tête d'ADP depuis 2012. Est-ce que c'est un signe, ça, d'ailleurs? On pourrait se demander, est-ce que c'est un signal que l'État voudrait garder une partie, le fait qu'il vous reconduise pour 5 ans?
Écoutez, j'ose croire que c'est tout à fait indépendant, puisque il est exact que avec nos 7000 collaborateurs, nous avons multiplié le cours de bourse par 3. Et dès lors que nous avons l'intention de continuer à développer cette entreprise, je suis optimiste sur nos facultés de le faire et je suis reconnaissant à l'État de me marquer ainsi sa confiance.
Une petite question, une petite curiosité. La croissance, vous l'avez dit tout à l'heure, elle sera évidente. Est-ce qu'on aura des avions propres? L'avion aujourd'hui, il pollue, c'est un facteur de dégradation de l'environnement très fort. Est-ce que ça... Voilà, c'est pas vous qui les construisez les avions, enfin ce sont vos clients. Est-ce qu'il va y avoir des avions électriques?
Alors, la question des avions propres est une très bonne question. Parce que figurez-vous que lorsque nous avons présenté aux compagnies aériennes notre contrat de régulation économique, le prochain, qu'on appelle le contrat de régulation économique numéro 4, nous leur avons proposé d'établir des tarifs différenciés suivant le taux de pollution des avions, pour pénaliser les avions très polluants. Je pense notamment à certains Boeing 747. Et l'honnêteté oblige à dire que leur réaction n'a pas été enthousiaste. Et que donc, vous trouverez dans le document public de consultation des phrases diplomatiques pour expliquer que nous avons fait cette proposition, mais que nous sommes ouverts au dialogue. Donc, nous, en tant qu'entreprise très soucieuse du respect de l'environnement, nous avons un objectif de zéro émission de carbone en 2030. Nous sommes partie prenante de ce débat qui est très important. Le transport aérien ne peut pas se développer si on ne prend pas une extrême attention et au bruit et à la pollution.
Il reste malheureusement très peu de temps. Nos auditeurs qui prennent l'avion, ils sont attentifs, c'est la qualité de service. Entre le moment où l'avion pose la roue sur le tarmac et le moment où on sort de l'aéroport avec ses bagages, il peut s'écouler 50 minutes. Ça fait partie des grosses critiques en termes de qualité de service des usagers Augustin de Romanet.
Vous avez absolument raison, les usagers ont deux préoccupations, la maîtrise du temps et les accès à l'aéroport. Ce sont les deux points sur lesquels nous faisons porter tous nos efforts. Pour prendre le seul point des bagages, par exemple, nous avons instauré un système de surveillance de la livraison des bagages sur tout l'aéroport. Personne n'est conscient du fait que ça n'est ni l'aéroport ni la compagnie qui le fait, ce sont des sous-traitants des compagnies. Mmh. Et ce que nous cherchons à faire, c'est à stimuler les compagnies aériennes qui, trop souvent, une fois que le passager est arrivé à la passerelle, entre guillemets, se lave un peu les mains de ce qui se passe après. Alors ça s'améliore, mais souvent, lorsque le pilote arrive à la passerelle et que la passerelle n'est pas là, le pilote vous dit « c'est de la faute d'ADP », il se trompe, c'est un sous-traitant de la compagnie. Et lorsque les bagages arrivent avec 40 minutes de retard, on vous dit « c'est de la faute d'ADP », il se trompe, c'est de la faute du sous-traitant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. Moi, je me considère comme responsable d'avoir un système de monitoring qui dise aux compagnies qui mesure le temps d'attente des bagages et qui fasse des tableaux d'honneur.
Vous leur mettez la pression et du coup, vous vous engagez à ce que ça...
On met la pression sur les compagnies pour le temps de livraison de bagages, on met la pression sur la police pour le temps d'attente à la police aux frontières. Nous avons financé 105 dispositifs paraf et nous sommes très attentifs et à ça et aux accès.
Augustin Romanet, l'avion a atterri. Merci d'avoir été ce matin sur RTL. Bonne journée.
Et on a compris que le transport aérien avait un avenir puisque lorsque le PIB croît de 2, l'aérien, lui, se développe du double, vient de nous dire Augustin de Romanet. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr.